en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui René de Obaldia, qui a été élu à l'Académie française en 1999 et qui, à bientôt 93 ans, est en plein sous les feux de la rampe culturelle à quatre titres. Il y a eu avant l'été au Cherche Midi la réédition enrichie de La Jument du Capitaine, donc recueil de ses formules et de ses textes les plus percutants. Là, Grasset réédite à la fois ses mémoires, exobiographies et son théâtre complet. Et puis, du 9 septembre au 19 novembre 2010, pendant près de deux mois et demi donc, le théâtre Ranelagh à Paris organise, sous la houlette de Catherine Develay, un festival René de Obaldia, théâtre, impromptu, poèmes, chansons, lectures. Une initiative enthousiaste en l'honneur d'un écrivain aussi jeune d'esprit que son œuvre tout entière, placée sous le signe d'une poésie qui se sert de l'humour, de la dérision, de la parodie et surtout de la force créatrice de l'imaginaire pour bousculer au travers des mots et sans avoir l'air d'y toucher bien des choses établies. René de Obaldia, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, sept questions récurrentes posées donc à tous les invités, oui, sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Alors tout de suite, oui, la première question. Oui. Dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, René de Obaldia, le moment essentiel?
Alors, je vais vous dire tout de suite une chose, c'est que j'ai horreur du mot carrière. Jamais j'aurais pensé à faire carrière. Quand on écrit, on est poète, pour moi, c'est une vocation. C'est une vocation. Et je me souviens, j'avais rencontré Daniel Ropp, ça ne vous dit plus grand-chose, Daniel Ropp, à l'époque, que j'avais rencontré, j'étais très jeune, et il parlait du nez, il disait « Il faut penser à votre carrière, il faut penser à votre carrière ». J'avais répondu « Mais je n'ai pas envie de faire carrière, c'est une vocation pour moi ». Bon, alors, pour répondre quand même approximativement peut-être à votre question, dans votre carrière, à quel moment essentiel, c'était le moment où j'ai rencontré Clara Malraux. La première femme d'André Malraux, donc. C'était le moment, j'avais 17-18 ans, où j'écrivais des poèmes, des textes courts, que j'envoyais à toutes les maisons d'édition, aux revues. Les revues étaient très importantes à l'époque. Les revues, c'était la Nouvelle Revue Française, bien sûr, la Table Ronde, le Mercure de France et d'autres. Et ça m'était refusé, les maisons d'édition, c'est classique lorsqu'on fait quelque chose de créateur véritablement, avec la formule « Votre œuvre est admirable, ce que vous avez écrit est admirable,
ça ne rentre pas
dans votre collection. » Et puis, j'avais envoyé à Clara Malraux, qui avait fondé une revue, c'était juste au moment où la Nouvelle Revue Française n'avait pas encore reparu. Donc, j'ai envoyé un texte à cette revue. Et Clara Malraux m'a envoyé ce qu'on appelait à l'époque un petit bleu. C'est un télégramme. Elle voulait me rencontrer à tout prix. Et alors là, elle était enthousiaste. Ils m'ont publié. Ça a été un tremplin pour moi. Et à partir de là, ça a été pour moi, dans ma carrière, si je peux employer cette expression, une chose très importante.
Mais est-ce qu'il s'agissait de Midi?
Non, c'était pas
Midi.
Non, Midi, c'était un poème que j'avais écrit, effectivement, très tôt.
En 49, hein, publié en 49.
Moi, je ne sais jamais les dates. J'oublie la date de ma naissance.
1918.
J'oublie la date de ma mort. Enfin, voilà.
Ça, je peux pas encore vous
bon,
vous savez ce que disait Woody Allen ? Ce n'est pas que j'ai peur de la mort, mais le jour où elle viendra, je préférerais ne pas être là.
C'est très joli. Et je vais en citer une autre de Jean Paulhan, que j'aime beaucoup, quand il dit « La mort, pourvu que j'arrive jusque-là ». Bon, voilà. Bon. Donc c'est Clara Malraux qui a eu un déclenchement. J'ai été donc reconnu, pris dans d'autres revues, puis c'est ainsi que j'ai été publié dans une collection qui s'appelle « Porte ouverte », que dirigeait Canters à l'époque, qui était les éditions Julliard, qui étaient les grandes éditions de ce moment-là.
Oui, Robert Canters, oui, à
cette
époque-là. Je pensais que vous citez le vent dans les branches de Sassafras. Donc ça, c'est 1965. C'est quand même la pièce qui vous a le...
Le théâtre était un accident pour moi. Je ne croyais pas vraiment écrire pour le théâtre. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on appelait les belles lettres à l'époque. Enfin, la poésie avant toute chose, et puis des formes romanesques, enfin les littératures.
Parce que vous aviez fait d'ailleurs avant le théâtre. Il y avait eu Tamerlan des Cœurs,
voilà,
il y a eu Fugue,
voilà,
à Waterloo, le centenaire.
C'est ça.
Avant de commencer le théâtre avec Génousie en 60.
Voilà. Donc, le théâtre a été pour moi une merveilleuse chose, une rencontre. Tout à coup, d'abord avec Jean Villard, bien sûr, qui m'a mis le pied à l'étrier en montant Genousie. Et puis ensuite, vous parliez du vent dans les branches de Sassafras. Bien sûr, ça a été le grand succès, c'était même un triomphe. Et je dois le dire aussi, à cause des merveilleux interprètes que j'avais, dont Michel Simon. Dont Michel Simon qui a créé le rôle de John Embry Rockefeller, le patriarche du vent dans les branches de Sassafras. Un western de chambre, je dis ça pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est.
Et en même temps, il vous a donné, si j'ai bonne mémoire, une très grande leçon de modestie le soir de la générale, Simon.
Alors, je peux le raconter.
Vous pouvez le raconter, parce que c'est quand même assez drôle, ça.
Oui, alors... Oui, c'est très joli que vous dites leçon de modestie. Alors, le cher Michel Simon avait la mémoire qui défaillait, c'était assez terrible. Et parce que, au bout de 15 jours, il savait à peine le texte, c'était très difficile. Et enfin, sur scène, il y avait des grands moments d'arrêt, c'était la consternation pour ses camarades. Et parfois même, il disait un texte qui n'était pas de moi. Il lui revenait. il lui revenait
Ça a dû vous amuser, ça.
Ah ben oui, non, c'était terrible pour les pauvres comédiens. D'un seul coup, c'était des répliques de fric-frac qui venaient à son esprit. Et alors, il m'avait pris à l'épargne, Michel Simon, il m'avait dit, vous savez, Obadiah, il ne m'appelait pas encore René au départ. Vous savez, Obadiah, c'était, ma mémoire me fait défaut, c'est à cause d'une teinture sur mes cheveux qu'on a faite pour un film. Et c'est à cette mauvaise teinture qui m'a grignoté le cervelet. Alors, j'ai dit, bon. Et enfin, on est arrivé à reculer la générale. Ça reculait, mais enfin arrive la couturière, ce qu'on appelle salle pleine, archi-comble. C'était quand même le retour de Michel Simon. Il y avait 6 ans qu'on n'avait pas, on ne savait pas ce qu'il était devenu. Alors, naturellement, on avait mis 3 souffleurs, on ne pouvait pas en mettre 4, n'est-ce pas? Mais de temps en temps, c'était très très compliqué. Mais quand il ne savait plus, de toute façon, il prenait son revolver, il tirait des grands coups de feu dans l'air pour meubler, n'est-ce pas? Et comme j'écris quelque part, son énorme présence suppléait au rétrécissement du texte, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, c'est le triomphe, il sort de là vraiment, et les camarades sortent de là comme d'un naufrage, comme si ils sont revenus d'un naufrage, tout le monde est en liesse. Michel Simon donc se présente à l'avant-scène, les larmes aux yeux, c'est le triomphe, il arrive à faire taire le public, enfin, et puis il veut faire l'annonce traditionnelle, ça a donné ceci, la pièce que nous avons eu l'honneur de présenter devant vous est de l'honneur. La pièce que... Ah merde, j'ai oublié le nom de l'auteur. Alors, vraiment, c'était, je crois, un événement assez unique dans l'histoire du théâtre.
Alors, deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, René de Obadiah, sur votre activité actuelle, donc l'écriture? Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur cette activité d'écriture?
C'est-à-dire que je passe par différents modes d'écriture. Vous savez, j'écris des poèmes aussi, des textes et du théâtre. Et je ne suis pas un écrivain... Comment vous dire, celui qui se met à sa table de travail régulièrement, oui, vous savez, le matin.
Pas l'instituteur, quoi.
Oui, pas tout à fait. Il y avait un mot de Max Jacob, d'ailleurs, qui me revient à l'esprit, qui était très drôle, quand on demandait à Max Jacob quelle est la différence que vous portez entre le romancier et le poète. Et alors, Max Jacob a répondu, le romancier travaille, le poète souffre. C'est très très joli. Comme je suis un peu les deux, vous voyez dans quel état je peux être parfois.
Et le mot voilà. de Flaubert, oui. 80% de transpiration et 20% d'inspiration.
C'est très très joli. Et l'inspiration dont Valéry, vous savez, ce Valéry avait douté de l'inspiration. Enfin, il répugnait du mot inspiration, il n'aimait pas ça. Et il a dit quand même de temps en temps, tel vers nous vient des dieux. Il ajoutait, mais après, quel boulot pour se mettre à la hauteur. En gros, c'était ce que disait Valéry.
Oui, alors, donc, vous êtes, je le disais, à l'actualité. Il y a une véritable effervescence autour de vous actuellement. En quoi votre œuvre, hein, franchement,
oui.
Votre œuvre et votre démarche peuvent-elles toucher le plus des gens de la jeune génération? Il y a dans le studio à côté de nous une jeune fille, une jeune stagiaire.
Oui.
En quoi peuvent-ils être touchés, à votre avis, hein?
Eh bien, à mon avis, c'est d'ailleurs, je prends l'avis des autres, c'est que ce que j'ai écrit était assez provocateur, assez en dehors des conventions, et je rejoins à ce moment-là certaines préoccupations ou certaines libérations, je pourrais dire, dans l'écriture, parce que je suis moi-même entouré de beaucoup de jeunes, parce que j'ai beaucoup de troupes d'amateurs qui me jouent. De troupes d'amateurs, énormément. Et là, j'ai la visite parfois de jeunes garçons, de jeunes filles qui ont 17, 18 ans, 20 ans, et qui jouent mon théâtre. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous ces jeunes sont épatants dans l'ensemble. Ils ont vraiment une recherche, une quête, et donc il y a une correspondance entre mon univers, mon esprit créateur, disons, pour aller très vite, et leurs préoccupations. Il y a une rencontre qui se fait encore maintenant, et qui me réjouit, bien sûr.
Si vous voulez bien, on va essayer de comprendre pourquoi, parce qu'au début de votre carrière, certains ont, de façon très imprudente, associé ce que vous faisiez à l'absurde.
On met des étiquettes tout de suite, il faut mettre des étiquettes, bien sûr.
Alors, on a plutôt l'impression donc, que votre méthode à vous, votre démarche, consiste à utiliser la poésie, les mots, l'humour, la parodie, le délire, pour nous rendre plus sensibles au mystère et au sens tragique de la vie, non ?
Oui, tout à fait.
C'est ça ?
Vous avez parfaitement bien dit. C'est tout à fait ça.
Il y a une image, moi je suis hanté, ça fait 2 ans. Je ne sais pas si vous me portez bonheur ou malheur, mais ça fait 2 ans que j'ai cette image en tête, l'image finale de Grasse Matinée, lorsque le squelette va prendre le train, vous savez, dans la brume du soir. Il va prendre le train et qui va le conduire vers son éternité. Et tout à coup, par cette capacité de créer un univers un peu délirant,
vous rendez
une perception du temps qu'on n'a peut-être jamais eu auparavant. C'est terrible, ça. C'est terrible. Oui, vous croyez à la force créatrice de l'imaginaire ?
Oh, mais bien sûr. Et c'est ce qui manque le plus à l'heure actuelle, à mon sens, dans les temps actuels. C'est l'imaginaire, précisément. Mais bien sûr, et vous savez, William Blake disait « Tout ce qui est imaginable est vrai ». C'est un mot de William Blake.
Et alors, vous dites souvent que pour vous, le théâtre correspond à cette formule de Novalis. C'est la réflexion active sur l'homme et sur sa folie.
Voilà. Ouais, oui, je trouve ça... pour moi, vraiment, c'est une définition que j'aime beaucoup de Novalis, effectivement. Oui.
Mais tout ça, vous le faites à travers, souvent, la dérision, à travers l'humour.
Oui, bien sûr, mais aussi, je dirais, l'amour. C'est quand même une reconnaissance de l'homme, une question sur l'homme et une fraternité. Autrement, ça ne porterait pas de fruits, si je peux dire.
Alors, pour caractériser votre démarche, on peut peut-être se servir de l'exemple de quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est le philosophe espagnol Miguel de Unamuno.
Oui.
Parce que, comme vous, c'est très sérieux, au fond, le sentiment tragique de la vie, c'est
bien
un
sûr,
qui nous a marqué.
Et l'agonie du christianisme et bien d'autres...
Et en même temps, j'ai découvert grâce à vous qu'il avait une autre spécialité très curieuse quand même. Unamuno.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il avait cet humour espagnol qu'on connaît pas. C'est ce que Jean Cassou, qui était un grand hispanisant, disait que c'est un humour métaphysique. Et les Espagnols ont ça. Prenons de Unamuno, effectivement, c'est un corps merveilleux parce qu'il était professeur à l'université de Salamanque. Il a créé ses grands livres que vous citez, dont L'agonie du christianisme et surtout Le sentiment tragique de la vie.
Un très beau livre.
Grand
livre.
Oui. Et alors, un jour, il a écrit un précis de cocotologie, la façon de faire des cocottes en papier avec planche à l'appui. Alors, évidemment, ça déroute beaucoup les Français, cette sorte d'humour. Mm-hmm. Mais on trouve ça dans des auteurs espagnols qu'on connaît mal.
Alors, avec vous, la poésie, au lieu d'être un exercice pédant, abscon et prétentieux, c'est un plaisir, le plaisir des mots. Mais il y a la formule, il y a le sens de la formule quand même. Quand vous parlez du corbeau en disant « c'est un paquet de ténèbres crochues », comment ça vient, ça ?
Eh bien, c'est la grâce. Vous savez, c'est
la
ce
grâce,
que...
Après, c'est ça.
Oui, on n'y peut rien. Je remercie le ciel quand il m'envoie de l'inspiration. Et j'en reviens à Valérie qui disait, il y a un moment de grâce, il y a un moment où il y a... Vous savez, on passe... Ensuite, il faut se mettre au niveau, n'est-ce pas, de ce qu'on a reçu. Mais en tout cas, c'est toujours mystérieux, la création. C'est toujours mystérieux. Oui. C'est un grand mystère pour soi-même.
Oui. Alors, vous avez... je crois savoir qu'en 52, vous avez reçu vraiment un coup au cœur en voyant les chaises de l'UNESCO.
Oui.
Qui est devenu l'un de vos grands amis.
Oui.
Il avait, il y a 10 ans de différence d'âge entre vous.
Oui.
Il y a évidemment des tas de proximités entre vous, donc ce sentiment tragique de la vie, mais il y a quand même une grosse différence, c'est que vous n'êtes pas comme lui, semble-t-il, à la torture, à la perspective de la mort, et puis l'angoisse de la vie, vous semblez savoir la dominer. Alors, est-ce que dans cette proximité qu'il avait avec vous, est-ce que UNESCO, de temps en temps, vous disait, mais... T'as de la chance, toi, tu sais dominer ça, alors que moi, non ?
Non,
jamais.
Non, c'était pas ainsi.
Il vous enviait pas d'avoir cette capacité à dominer ça ?
Je ne peux pas répondre exactement à cette question. Il y avait un côté très mystérieux, Ionesco. Il ne disait pas. Mais en tout cas, une anecdote qui est tellement drôle quand même que je ne peux pas m'empêcher de vous dire. J'étais à l'étranger lorsque j'ai su qu'il était candidat à l'Académie française, qu'il avait été reçu à l'Académie. Et j'étais étonné parce qu'il avait quand même écrit des choses un peu contre l'Académie, n'est-ce pas ? Il y avait une pièce, petite pièce, je ne sais plus quoi. Il ironisait sur l'Académie, comme beaucoup. Vous savez, Flaubert disait faire tout contre l'Académie. Non, être contre l'Académie, mais faire tout pour y entrer. Vous savez, il y a une phrase de Flaubert. Alors, je revois notre jeune, Ionesco, et nous déjeunons ensemble. Et je lui dis, écoute, je suis quand même un peu surpris. C'est très bien que tu sois à l'Académie. Je suis quand même un peu surpris que tu aies voulu entrer à l'Académie. Et il me répond, mais tu sais, à partir de ce moment-là, je suis assuré de ne plus jamais mourir de faim.
C'est pas faux, d'ailleurs. C'est pas faux.
C'était tellement drôle.
Les demandes de chronique. Alors, je voudrais, pour ceux qui ne vous auraient pas lu et qui auraient peur de l'image que je donnais là avec ce poète du tragique, vous êtes aussi capable de faire de l'humour, je dirais presque totalement de façon gratuite, quoi, je pense. Je vais citer deux phrases. Vous allez me dire que c'est venu comme ça.
Oui.
Mais un seul être H. Oui. Oui. E accent circonflexe TRE vous manque et tout est peuplié.
Bon, oui,
une autre phrase. Ça, c'est tiré du cosmonaute agricole. Je dérive, je tananana arrive. Bon, il y a des moments où, franchement, vous vous lâchez.
Oui, oui, bien sûr. Hein? Et c'est pas mes meilleurs moments, d'ailleurs.
Ah bah, ça nous fait rire.
D'accord,
fait rire.
Oui, bien sûr.
Et alors, il y a une autre chose, c'est que, alors, comme vous êtes à l'Académie française, on vous présente toujours comme quelqu'un de très sérieux, très délicat et tout ça dans votre humour, mais en fait, vous êtes capable aussi d'aller dans le sens du boulevard le plus impénitent. Là, j'ai une phrase tirée de Bang.
Oui.
Vous souvenez de cette définition de la femme par un poivreau ?
Non.
Ah ben, je vous cite. Hein.
Oui.
Mais vous allez trouver l'accent. Moi, vous allez le redire avec l'accent. Écoutez, parce que ça vaut son pesant d'or. Hein.
Oui.
On ne peut pas penser que c'est un académicien, un membre de l'Académie française qui a dit ça. Donc, la définition de la femme par un poivreau. Un abîme par où ce qu'on est sorti et par où ce qu'on n'a jamais fini de rentrer.
Ah oui, j'aime beaucoup.
C'est beau, hein?
Oui, je me souviens. Vous
pourriez nous la redire?
Oui. Un abîme. La femme, c'est un abîme. Il était poivreau complètement. C'est un abîme. Alors, redis-toi, c'est un abîme.
Un abîme. Par où ce qu'on est sorti
et où ce qu'on n'a jamais fini de rentrer.
Oui, effectivement.
Bon,
ça prouve donc.
Ben voilà.
C'est l'humour, quoi.
Oui.
C'est l'humour créatif et à l'égal des dieux. C'est Homère, ça. Ce rire inextinguible qui est le partage des dieux.
Ah ben oui. Oui, ça.
Bon, là, on est à l'essentiel. Troisième question récurrente de notre série. Élargissons donc les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société, avec toute la part de jeu que ça a, bien sûr, tout cela. Hein.
Mm-hmm.
Quelle est, René Obaldia, l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer à ce propos-là ?
Ben, on peut dire que cette société ne va pas très bien. Bon, ça a toujours été. Vous parliez de M. Klebs et Rosalie.
Oui.
Et je me souviens que
la phrase d'entrée
de Michel Bouquet, je vois que vous êtes très, très informé, c'était quand il dit, et ça faisait rire tout le public, oui. C'est à plus de 12 ans, je crois, il disait, on ne peut pas dire que ça s'améliore.
Oui, c'est ça, c'était en 75.
Ah
75.
Ben voilà, on peut
36
pas dire,
ans, 36
eh ben,
ans.
Ah ben oui, ben, ben, et les dates. Alors on ne peut pas dire que ça s'améliore, ça faisait rire.
Je le vois encore. On riait, parce qu'évidemment,
alors, quand je revois le Michel, de temps en temps, on se rend compte, c'est notre leitmotiv. Chaque fois qu'on se voit, on ne peut pas dire que ça s'améliore.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule de votre prédécesseur à l'Académie, Julien Green, qui écrivait dans son journal « Notre époque est épuisante pour l'âme ».
Ah oui, tout à fait. C'est même une très belle phrase que j'avais notée dans mon discours,
dans le discours.
Oui, cette époque est épuisante pour l'âme. C'est une très belle phrase de Julien Green. Oui.
Qu'est-ce que vous mettez là-dedans?
Ben, qu'est-ce que je mets d'abord? Il faudrait qu'on fasse ensemble un symposium et parler de l'âme.
Oui, parler
de l'âme, parce que bon, mais il est évident que nous sommes...
Tout en tournant autour.
Nous sommes dans la matière, dans la matérialité, et plus tellement dans l'esprit, disons l'esprit, pour aller très vite.
Oui, c'est ça.
Bien sûr.
Ouais. Et comment vous réagissez, vous, à la frénésie de vitesse qui s'est emparée de notre société?
Ben écoutez,
Internet, tout ça.
Oui, ben écoutez, je ne suis pas doué. Je dis très souvent que je date des Mérovingiens pour m'excuser, mais je ne suis pas doué pour tout ça. Écoutez, c'est fabuleux. Faut bien dire les choses. Oui, c'est quand même fabuleux. Cette technologie est fabuleuse. Et en même temps, elle est inquiétante. Et en même temps, prenons les communications. On n'a jamais tant communiqué d'une façon extraordinaire. D'ici, je peux téléphoner au Tibet. C'est extraordinaire. Et vous avez les mômes très vite, ils communiquent, tout ça. Mais cette faculté de communiquer est extraordinaire. Mais en même temps, on n'a jamais moins communiqué.
Oui, vous jamais rencontrez, autant de solitude.
Voilà, c'est paradoxal. Et alors, en même temps, cette technologie est fabuleuse aussi. Mais science sans conscience, etc., on peut épiloguer sur tout ça.
Donc, on peut y perdre quelque chose.
On peut y perdre son âme, puisqu'on parlait d'âme.
Oui, oui. Attention, pas trop. Hein, pas trop.
Oui.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, René de Obaldia, et là, vous avez le choix. Quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Oui, ce sont des questions difficiles à répondre. C'est le mensonge, en fait. Nous sommes entourés de mensonges. C'est le mensonge partout. Je me souviens de Simone Veil.
Que je disais Julien Green aussi, ça. Votre
oui, aussi. Bah oui, mais il avait
son obsession, ça.
Son obsession à Green, le mensonge, effectivement. Et m'est revenu à l'esprit cette Simone Veil. Je parle de Simone Veil,
oui,
non pas ma consœur à l'Académie, mais Simone Veil qui a écrit La pesanteur et la grâce, qui avait demandé à un moment, qui exigeait un tribunal de la vérité. Merveilleux, ça. Demander un tribunal de la vérité.
Idée reprise par Maurice Clavel ensuite pour une émission de télévision qui n'a jamais vu le jour et qui s'appelait Le tribunal de la vérité.
Ah bon ? Ah, je ne savais pas ça. Ben, il l'a piqué, si je peux dire, à Simone Veil.
Je vous raconterai parce que ça a été un épisode étonnant.
Oui,
effectivement. Donc, le mensonge. Mais vous pensez qu'il y a plus de mensonges aujourd'hui qu'avant ?
C'est-à-dire le mensonge est enregistré, maintenant il est multiplié par les médias.
C'est ça, voilà.
C'est ça la question.
Cinquième question récurrente donc, de notre série, L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, René de Obaldia, le plus d'espoir ?
Eh bien, bizarrement, comme je vous l'ai dit, ce sont les jeunes. Je trouve qu'il y a.
Pourquoi bizarrement ?
Eh bien, parce qu'on pourrait dire, les jeunes, ils s'en foutent complètement. Parce que ça, il y a des choses, ils s'en foutent, ils se droguent.
Vous êtes pour dire ça. Vous n'êtes pas
mieux,
vous.
Non, mais quand même, il y a une sorte de comme ça, de... je pense, une fois de plus, qu'il y a un appétit, il y a une exigence de pas mal de jeunes pour justement changer les choses, mais quand même dans le bon sens, bien sûr.
Et pourtant, vous avez plutôt une vision sombre de l'homme et du monde.
Je crois que c'est difficile de ne pas avoir ce sentiment tragique de la vie. Moi, je regarde la chaîne Histoire, n'est-ce pas ? Il y a une chaîne de télévision Histoire, je ne regarde pas tellement de télévision. Mais quand on voit les événements qu'on a pu filmer, bien sûr, on n'a pas pu filmer Napoléon à Waterloo, par exemple, ça aurait été intéressant. Mais c'est une suite d'horreurs, l'histoire. C'est une suite de monstruosités depuis que le monde existe. Et le vieil adage, comme vous savez, homo homini lupus, n'est-ce pas ?
L'homme est un loup pour l'homme.
On ne va pas
ajouter la suite, quand même.
Non, d'accord. mais en tout cas, ça a la guerre changée, malheureusement.
Vous parlez d'horreur. Vous êtes, vous, de père panaméen et de mère française, d'ailleurs, qui se sont rencontrés, je n'ai plus le texte sous les yeux, mais vous l'avez raconté d'une façon étonnante, au bal Bullier.
Ah, mais oui, au bal Bullier.
Ils ont dansé ensemble, et il y a eu un enfant.
Oui, c'est ça.
Grosso modo.
Mon père la fit valser, et elle devint ma mère.
Voilà, vous l'avez très joliment écrit. très joliment écrit. Donc, vous avez été naturalisé français, vous avez été mobilisé.
Mais oui.
Et
j'ai rejoint, comme j'aime beaucoup l'expression, c'était en 40, bien sûr, j'ai rejoint mon corps. C'est l'expression qui m'a... Voilà. Oui.
Qui n'était pas expéditionnaire.
Non.
Et finalement, vous êtes retrouvé dans un camp de Silésie pendant 4 ans.
Oui.
Et quand on lit... moi j'ai, alors, vous me direz que c'est un esprit faussé. De faire ça, c'est d'avoir un esprit faussé. Mais il y a l'une de vos pièces qui s'appelle L'Azote. Vous vous souvenez de L'Azote ?
Ah oui, bien sûr.
Et je l'ai lu à travers cette expérience-là des camps.
Oui.
Vous avez horreur de la guerre. Vous avez horreur de la violence.
Bien sûr. Mais écoutez, ça va de soi. Pour moi, c'est quand même... Bien sûr. Et alors, j'ai vécu donc 4 ans en captivité, dans un camp de prisonniers de guerre. Et on m'a souvent dit que je n'avais pas assez parlé de cette expérience de 4 ans, même plus de 4 ans de captivité.
Mais elle est présente dans toute votre œuvre, indirectement.
Indirectement, mais parce qu'au fond, c'est une connaissance de l'homme plus rapide. Dans ces conditions-là, il n'y a plus de... Comment vous dirais-je ? Il n'y a plus de valeur d'avoir. Nous n'avons rien. Ce sont des valeurs d'être, n'est-ce pas ? Mais quand je suis revenu de la captivité, j'ai très peu parlé, effectivement, de ces moments-là, parce que nous avons découvert l'incroyable qui était les camps d'extermination, les camps d'Auschwitz, etc. Et là, j'ai une sorte de pudeur de pouvoir écrire de ce que j'ai vécu, parce que c'était pour nous inimaginable.
Mais enfin, quand même, vous avez fait quelques confidences, et en particulier celle-ci, cette idée que vous avez côtoyé là-bas à la fois le pire, mais aussi le meilleur de l'homme.
Bien sûr.
Les deux.
Bien sûr.
Mais pratiquement au même moment, enfin, ça pouvait pas passer de l'un à l'autre.
C'est très simple, vous savez, justement. Par exemple, on mourait de faim à un moment donné. C'est rien à dire, mais on avait vraiment...
Bon, ça part quand même.
Bon. Alors, tout à coup, on vous dispense... les Allemands avaient filmé une chose comme ça, d'ailleurs. On vous donne du pain, on vous jette des morceaux de pain. On se rue sur ces morceaux de pain, ça va de soi. Mais ce que je peux vous dire, on a ce pain. Et certains camarades, plus faibles que d'autres, certains partagent même le pain. Et d'autres sont capables de vous tuer pour avoir ce bout de pain. C'est ça, les meilleurs, les deux en même temps. Et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui me tuerait. Moi-même, je peux le faire si je meurs de faim et s'il y a de quoi manger. Ce sont des situations extrêmes, bien sûr.
Mais vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Mais puisque vous parlez de ça, vous qui adorez jouer avec les mots et qui adorez les beaux mots de la langue française, le mot compagnon.
Alors c'est super. Rompre le pain.
C'est ça.
C'est rompre le pain. Compagnie, c'est manger avec le pain avec. Ouais, oui. C'est rompre le pain, le compagnon.
Ouais. On revient à la fraternité dans vous.
Mais bien sûr.
Mais pourquoi on ne dit pas plus que votre œuvre est une œuvre de la fraternité, en fait?
Ah ben, je compte sur vous.
On va le dire, on va le répéter, on va le dire en riant, mais bon, on va le dire. Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel a été, René de Obadia, le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter? Alors, je vous laisse, comme c'est éminemment personnel, vous avez le droit d'utiliser un joker. Vous pouvez me dire non.
Oui, bien sûr, non, mais je ne vois pas vraiment l'échec, sinon que certaines pièces qui n'ont pas marché. Par exemple, j'avais écrit Les Bons Bourgeois en hommage à Molière. Et c'est une pièce, je crois vraiment une de mes meilleures pièces, les plus réussies et qui avait une distribution épatante. Il y avait la jeune Fanny Ardant. À l'époque, il y avait Rosie Vart, il y avait Pierre. Bon, et c'était vraiment. Et puis, on n'a pas fait de général. C'était pas fait de général. Et c'était une erreur totale parce que les critiques se sont sortis un peu mis de côté. Donc, ils ont démoli cette pièce, n'est-ce pas? Ça a été joué 30 fois. On l'a arrêté. Alors que c'était en plein succès. Les gens venaient. Et là, ça.
Ah bon?
Oui, c'était fou. Mais bon, c'était un malentendu. C'était un malentendu. Avec, bon, je vais pas rentrer dans. Mais c'était pour moi un échec, si vous voulez. Il n'y a pas de doute au point de vue échec. Et ça m'avait un peu. Sur le plan théâtral, j'ai écrit d'autres choses. Je ne suis pas revenu au théâtre tout de suite. Ça a été pour moi un échec. Et alors, par bonheur, il y a une captation, comme on dit. Et on voit, les gens sont ravis. Et moi, je trouve que ces Bons Bourgeois, c'est une de mes pièces les plus réussies.
Alors, il y a les échecs et puis il y a un cran en dessous. Il peut y avoir aussi de l'amertume. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez effectivement très joué par les troupes amateurs, très joué dans les cours de théâtre.
Oui.
Mais là, je faisais un recensement quand même. Depuis 10 ans à Paris,
si
on enlève ce qu'a fait Le Doiret qui a fait 4
spectacles. Il y a quand même eu dernièrement le Grâce Matinée joué par Cyrielle Clair.
C'est Le Doiret qui l'a fait. C'est Le Doiret
qui l'a fait. Bien sûr.
Donc
bien sûr.
Le Doiret vous a monté, si j'ose dire, 4 fois, là en 10 ans.
Oui.
Mais en dehors de ça, je n'ai pas vu grand-chose. Alors, c'est quand même étonnant, vous êtes connu dans le monde entier. Votre théâtre est considéré comme l'un des théâtres importants du XXe siècle. Bon, je le dis devant vous, je ne devrais pas le dire, mais bon. Vous êtes dans toutes les écoles de théâtre, on vous cite en exemple, les amateurs vous jouent, et bon, sur les scènes publiques, il n'y a pas les représentations qu'on pourrait attendre. Est-ce que vous en éprouvez une certaine amertume?
Oh, ben oui, d'une certaine manière, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'effectivement...
Vous avez une explication ou pas?
J'en ai pas vraiment. Oh, je pourrais vous dire, évidemment, il faudrait que j'invite des directeurs de théâtre, je ne sais pas que je m'occupe d'une carrière, je n'ai jamais fait ça de ma vie, je n'ai jamais tiré de sonnette, quoi que ce soit. Effectivement, c'est un peu bizarre, mais comme vous savez, on va se rattraper, puisque ce festival, on va en parler.
C'est la fête, la fête. D'ailleurs, j'ai rarement vu, depuis le nombre d'années assez importantes, où je suis cette activité théâtrale, je n'ai jamais vu, je peux le dire, autant d'enthousiasme dans la préparation d'un festival. Je ne sais pas comment vous faites,
mais ils sont là
comme des gamins, tous.
Il faut demander à tous ceux qui ont fait ça, la directrice.
Si, je sais pourquoi, mais je ne le dirai pas devant vous.
Le service de presse.
Avec la meilleure attachée de presse de Paris.
Superbe. Et j'ai comme un complot derrière moi, une sorte de trame. Et vous savez, c'est ce festival au Baldia qui va avoir lieu, qui me réjouit, ça va de soi. Et c'est d'autant plus étonnant pour moi, c'est qu'en général, les festivals, les hommages aux auteurs, se font souvent après leur mort, n'est-ce pas? Et là, je suis très, très sensible à ce qu'on fasse ça de mon vivant.
Celui-là, au moins, vous le rattraperez avant.
Voilà.
mais est-ce que, vraiment, en toute franchise, que vous avez un besoin de reconnaissance ou est-ce que...
Ma foi, non. Je suis toujours très, très heureux d'être reconnu. Ça va de soi. Je ne suis pas du tout masochiste. Mais en enfin, non, je ne pense pas.
Alors, vous avez, sous le titre « Le plus beau vers de la langue française », publié un poème qui était dans les Innocentines.
Oui.
On trouve donc ce vers fameux, le « j'ai gélatineux, génié dans le jasmin », qui est précédé d'un autre vers, parce qu'il faut les lire tous les deux en même temps, quand même. « C'était l'heure divine où sous le ciel gamin, le j'ai gélatineux, génié dans le jasmin ». Est-ce que c'est vraiment une plaisanterie quand vous dites « c'est le plus beau vers de la langue française » ?
Certes. Certes, quand même. Mais vous savez...
Pour qui sont ces serpents, c'est ça ?
Oui, oui. Mais oui, il y a ça aussi. Mais quand j'avais, je ne sais pas, 11-12 ans, j'étais déjà passionné par la poésie. J'écrivais des poèmes à la manière de Victor Hugo, etc. Et j'avais un professeur de lettres qui nous a dit un jour, il a dit, pour moi, le plus beau vers de la langue française, il a dit, c'est le cliquetis confus des lances sarrasines. Je n'ai pas dormi de la nuit.
Ah, on y est.
Le cliquetis confus des lances sarrasines. Alors j'ai dit, bon, je demande, ne dormez pas, c'est le plus beau vers de la langue française. Et notre ami Michel Tournier, l'écrivain Michel Tournier, à la radio, on l'interviewait, on lui demandait, bien sûr, le roman, mais est-ce que la poésie vous intéresse ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un vers pour vous ? Alors, Michel Tournier, dit, a pris la mouche du coche, qui disait, dans un chemin montant, sablonneux, malaisé. Et tout à coup, il entre en transe, littéralement, avec ce vers, dans un chemin montant, sablonneux, malaisé. Alors moi, j'ai de mon côté, voilà, j'ai eu l'idée d'écrire ce plus beau vers, le j'ai gélatineux, génier dans le jasmin. Voilà.
Qui c'est vrai, c'est ça, c'est bon.
Explication.
C'est ça. Et donc tout à l'heure, vous disiez que Ionesco était rentré, évidemment, il le disait en riant, à l'Académie française pour ne pas mourir de faim. moi, j'ai entendu quelqu'un qui vous connaît bien, qui me dit, si tu veux comprendre l'humour d'Obalia, eh bien, dis-toi qu'en fait, il est rentré à l'Académie française parce qu'il est petit-fils de général, que dans ses ancêtres, il y a eu quelqu'un qui a été deux fois président de Colombie, que l'uniforme, il adore ça, en fait.
Oui.
Et qu'à l'Académie française, il a un très bel uniforme. Ça a joué ou pas ?
Non, c'est une interprétation, comme il y en a d'autres.
Et vous l'acceptez ?
Oh, non, pas tout à fait. Mais enfin, je suis très fier. D'abord, c'est un très bel habit, il n'y a pas de doute, c'est superbe. Et je suis très heureux. Et puis
mais ça fait quel moine, cet habit-là ?
Ben, vous savez, l'habit fait le moine, d'une certaine manière.
Lequel, là ? Lequel ?
Ah, ben, je ne sais pas trop.
C'est... Vous vous sentez important quand vous êtes...
C'est-à-dire, oui. Non, mais c'est évident que l'habit, on ne peut pas se comporter avec un habit comme celui-là. Jouer aux boules, par exemple. On ne peut pas jouer aux boules.
Ça serait Coluche qui ferait ça.
Oui, par exemple.
Ouais. Mais est-ce que ça vous transforme ? Quand vous le portez, est-ce que vous ressentez ? Vous avez l'impression d'être...
Non, effectivement. Non, il y a quelque chose qui se passe tout de même. D'abord, c'est la représentation qu'on a aux yeux des autres.
Ouais,
c'est la représentation, le phénomène de représentation.
Le miroir.
Alors, voilà. Donc, effectivement, il vaut mieux bien se tenir. Il ne faut pas... Mais enfin, non, mais c'est un superbe costume.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, quelle est, René de Obalia, votre motivation essentielle dans la vie ?
Eh bien, ma motivation essentielle actuellement, c'est de réussir ma mort.
Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle.
Ben oui, voilà. Oui. Ben oui, il me reste peu de temps à vivre. Il faut voir les choses comme elles sont, c'est pas du tout, c'est normal, tout le monde.
Ouais.
Mais je veux dire, voilà, quelle est réussir ma mort, parce que ça... Voilà.
Mais vous vivez au jour le jour ou quoi ?
Ah oui, tout à fait. Oui,
tout à fait. Ouais. Vous laissez porter.
Oui. Ah oui. Mais avec quand même une certaine conscience, bien sûr. Oui.
Alors, tout le monde reconnaît en vous un homme. C'est d'ailleurs pour l'une des raisons pour lesquelles il y a un tel enthousiasme dans l'organisation de ce festival, en dehors de votre talent. Tout le monde reconnaît en vous un homme délicieux, infiniment attentif aux autres et drôle. En même temps, vous faites preuve d'une énergie sidérante. Je peux raconter quand même une chose. Il y a 2 ans, vous aviez 91 ans, vous avez été renversé par un vélo, je crois.
Mais absolument, oui.
Mais blessé. Ça ne vous a pas empêché de partir en avion au
Panama. Oui.
Alors, quel est votre secret pour tenir le coup comme ça ? Quel est votre truc, là ?
On me demande très souvent, à votre âge, vous êtes encore plein de vitalité, comment faites-vous ? Alors, il est bien évident qu'on m'a posé cette question très souvent, et que on peut répondre, évidemment, si je me droguais, si je me saoulais du matin au soir, etc. Il y a une hygiène de vie. Mais j'ai trouvé une formule que je trouve excellente. Il dit, tous les matins, pour être dans ces merveilleux états d'euphorie, de conscience, tous les matins, au petit déjeuner, je lis une page d'Obalia.
Ah ben c'est pas une mauvaise idée. Tenez, moi je peux le faire avec vous là.
Alors
attendez, tiens, devant moi, je prends mais la première chose qui me tombe sous la main. Elle attendait impatiemment la mort de son mari, alité depuis quelques mois, pour le jour de son enterrement, étrenner sa nouvelle robe noire qu'il a massissée. Voilà, là on est dans l'importance.
Voilà.
Est-ce qu'il vous arrive quand même de penser que la vie n'a aucun sens ?
Non. Vous savez, bon, c'est une question. Nous sommes dans l'absurde, bien sûr. Et souvent, on m'avait dit que dès le départ que j'étais de cette école de l'absurde, ce qui est faux. Je serais plutôt du théâtre du mystère.
Oui, c'est ça.
Pas je crois que si la vie est absurde, c'est vraiment trop absurde.
Alors, vous avez écrit dans les pensées aléatoires. C'est terrible hein, d'écrire parce qu'on est rattrapé.
confronté à soi.
Vous posez cette. Je vous dis ça, c'est pas très délicat de vous le dire, mais vous l'accepterez. Comment devenir vieux sans offenser l'aurore? À presque 93 ans, vous avez la réponse?
Non, justement. Justement, j'ai pas la réponse. Mais là, c'est une. Si vous voulez, c'est un moment de poésie. Revenons à la poésie, la grâce, effectivement.
Ça, grâce.
Mais voilà.
Il faut accepter de vivre avec la grâce sans chercher à aller. Au fond, l'Église catholique avait raison avec les mystères.
La grâce est gratuite.
Puis c'est le respect du mystère.
Mais aussi, bien sûr, et l'attention.
Et ça caractérise votre œuvre, en fait. Alors, vous avez écrit également, on dirait un interrogatoire de police, là. La vie manque de répétition. C'est d'ailleurs pourquoi elle rate si souvent. Mais franchement, on n'a vraiment pas l'impression que vous ayez raté la vôtre, en tous les cas. Non.
Non, on ne peut pas dire cela. Mais enfin, bon, je... Voilà, non, bien sûr, bien sûr.
Vous aimeriez la recommencer?
Ce sont des questions. Vous posez des questions difficiles parce que.
Ils sont un peu bêtes.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais je la recommencerai volontiers dans la mesure où j'ai quand même eu beaucoup de chance d'avoir ce don, le don de communiquer, de l'écriture, d'être reconnu. Donc c'est plutôt. Et après toutes les épreuves, bien sûr, que j'ai passées, mais j'ai eu beaucoup de chance en fin de compte.
Oui, mais de la chance, quand même, vous l'avez organisée, parce que si on peut se permettre de parler d'une manière privée, c'est un secret pour personne que vous avez adoré les femmes, que vous continuez à les adorer, que vous en avez d'ailleurs eu trois, en les ménageant. La famille, même recomposée, pour vous, c'est quelque chose d'essentiel dans cet équilibre que vous avez?
Non, c'est très essentiel, la famille,
essentiel,
bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants absolument délicieux, de charmants enfants.
Et une femme aussi.
J'ai une femme absolument merveilleuse, bien sûr. Et qui me supporte depuis pas mal de temps, déjà.
Il faut dire qu'elle s'appelle Diane.
Diane, en plus.
C'est un ancien mannequin américain.
Vous savez tout.
Quand je la regarde, je rêve.
C'est
un poème d'Obal Diane.
Merci. Mais
voilà,
effectivement.
Vous l'avez créé.
C'est pourquoi je dis que j'ai eu beaucoup de chance aussi.
Voilà. Alors là, au cours de ce festival, vous allez un lundi sur deux monter sur scène.
Voilà.
Donc, à 93 ans, parce que c'est le 22 octobre, votre anniversaire. Vous l'aviez fait il y a 2 ans au Petit Héberto.
Voilà.
On était tous bouche bée. On se disait, mais quand même, comment fait-il? Et qu'est-ce que vous apporte cette présence sur scène?
Eh bien, une joie, une complicité. Vous savez, c'est Cocteau qui disait, des choses que j'aime beaucoup. Entre autres, il disait, il faut aussi que le public ait du talent. c'est très joli. Et moi, j'ai un public de talent. Les gens dans ce petit théâtre Héberto, c'est pas très grand, c'est une centaine de places.
Mais
c'était plein. Et les gens qui se trouvaient là, c'était des gens qui me connaissaient fatalement quelque peu, puisqu'ils venaient là. Mmh. Et il y avait un contact entre moi et ce public, très heureux. Des moments, je dirais, de complicité. Donc, j'étais très heureux. C'était très, très vivifiant. Et voilà, j'étais moi-même donc assez étonné au départ de cette reconnaissance. Hein. Et puis, en même temps, je vous dis, il y avait cet échange, il y avait un échange.
Vous avez recommencé, quoi.
Eh bien, oui.
Alors, je disais, en commençant, donc, que vous aviez été reçu à l'Académie française le 15 juin 2000. Et à l'époque, vous aviez cité un texte de Paul Valéry, le discours sur l'Académie et son mystère, où Valéry parlait de l'Académie comme d'un îlot où se conserverait le souci du meilleur de la culture. 11 ans après, vous avez vraiment cette expérience-là?
Oui, tout à fait. Je veux dire que là, je rencontre des gens exceptionnels. Voilà. Ouais. C'est un privilège quand même. Ouais. Je rencontre des gens dernièrement, il y a chère Jacqueline de Romilly qui était ma voisine, qui est décédée par bonheur parce qu'elle est souffrait tellement.
Qui vous adorait aussi.
Oui, aussi. Enfin, il y avait une grande affection entre nous. Oui. Mais quand on rencontre Jacqueline de Romilly, que je ne l'aurais pas rencontrée peut-être autrement, c'est un bonheur. Mmh. C'est un bonheur. Mmh. Et donc, il y a des gens remarquables à l'Académie, j'ai des grandes amitiés et même des affections. Et c'est pour moi très merveilleux.
Alors, un de vos confrères m'a dit un jour, dites-moi si vous l'avez ressenti, ça. Il m'a dit, écoutez, c'est merveilleux pour une autre raison, c'est que nous n'avons plus d'ambition. Et donc, nous pouvons avoir des rapports véritablement...
Oui.
Alors, c'est vrai ou pas, ça?
C'est pas vrai pour moi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai eu d'ambition spécialement. J'ai eu simplement la nécessité d'écrire, de communiquer, et mais pas d'ambition véritablement. Ouais. Et puis voilà, j'ai pas du tout ce sentiment-là.
Alors il y a une chose qui m'avait étonné dans ce propos-là quand vous commentiez le texte de Valérie. Vous parliez de l'académie comme d'un îlot de résistance, donc comme contre l'érosion du langage. Ben, vous avez vraiment l'impression que
Actuellement, oui, bien sûr.
Bien sûr, vous dites bien sûr.
Oui, oui.
Mais pourtant,
il y a une dégradation, quand même, de la langue, du langage. Mais oui, c'est un lieu commun, presque, je dis là. Et même les mots se rétrécissent de plus en plus. Et puis, c'est un îlot de résistance, dans ce sens, je le pense. Et moi, je vais plus loin, d'une certaine manière. L'Académie m'intéresse beaucoup par son rituel. Son rituel est admirable quand on descend.
Voilà, c'est le petit-fils de général, tu vois.
Oui, peut-être. Et puis, alors, la garde républicaine qui rend les honneurs, etc. Alors, je pense que dans le monde actuel, ce rituel devient un peu de l'avant-garde. Je trouve que c'est un côté d'avant-garde, un côté presque pour moi surréaliste d'une certaine manière.
Oui, mais pas. J'insiste là-dessus parce que quand vous parlez de l'îlot de résistance contre l'érosion du langage.
Oui.
Quand on suit ce qu'on appelle aujourd'hui les one-man show, là, les seuls en scène,
on
s'aperçoit que depuis quelques années, il y a chez les jeunes un retour, mais fondamental, au jeu sur les mots, au jeu avec la langue. Vous prenez un Gaspard Proust.
Oui.
Gaspard Proust, ce n'est pas la décadence du tout.
Oui, non. Ben oui. Ben
Donc il y a ça.
Il y a ça aussi, vous avez raison.
Il y a ça aussi, je crois qu'on peut le dire.
Bien sûr.
Vous aviez fait beaucoup rire, là, donc, dans ce discours de réception à l'Académie, en disant que vous étiez tout à fait ébobi.
Oui.
Et Bobby, d'être élu. Oui. Est-ce que 11 ans après, vous êtes toujours et Bobby ?
Alors, je vais vous dire, c'est pas tellement et Bobby. Oui, j'ai dit ça.
Ah oui,
oui, absolument.
Et tout le monde a ri.
Oui. Mais je veux dire, non, je suis et Bobby avant tout d'être né.
Oui.
C'est absolument, je n'en suis pas revenu d'être sur cette terre, sur cette planète.
Oui, hein, oui.
Et je reste toujours étonné, de plus en plus étonné. Je trouve que cette vie, ce monde, que je vais quitter bientôt, et je reste ébobi. Je reste ébobi par ma naissance, et je resterai ébobi par ma mort. Je reste éternellement ébobi.
C'est un joli mot.
Oui, c'est amusant, bien sûr.
Alors, il y a une phrase que vous aimez beaucoup, si je suis bien informé. C'est un mot de Chesterton. Si les anges volent, c'est parce qu'ils se prennent eux-mêmes à la légère. Alors, dans ce sens-là, vous êtes un ange, vous ?
Un archange.
Un archange.
Non, mais c'est un très joli mot de Chesterton. Hein. Surtout dans une époque où c'est la pesanteur, surtout, qui domine.
Oui. Ouais. Ça veut dire que vous irez tout droit au paradis ?
Je ne peux pas. Ce serait présomptueux de ma part et cette présomption m'empêcherait peut-être d'aller au paradis, précisément.
Vous avez envie d'aller faire un tour au purgatoire ?
Vous savez, c'est très curieux parce
que... Vous avez peur de vous ennuyer au paradis ?
L'enfer, on l'imagine très bien parce que, d'une certaine manière, il arrive de le vivre ici-bas. Mais le paradis, effectivement, n'a pas tout à fait la notion de ce que peut être l'exaltation éternelle.
Oui, c'est ça. C'est peut-être l'éternité qui est
le plus fatigant.
Il y a un mot, au fond, j'ai envie de vous dire une phrase d'un de vos prédécesseurs à l'Académie française, c'était Marcel Pagnol.
Oui.
Et j'ai l'impression que ça vous définit très bien, ça. Méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux.
Oh, c'est joli, c'est un mot de Pagnol. Oui, c'est Pagnol. Ça, oui. Je l'avais su, mais je l'avais oublié. Oui, c'est très joli.
Vous le prenez à votre compte.
Ah, tout à fait.
Ainsi s'achève cet essentiel dont l'invité était donc aujourd'hui René de Obaldia. Je rappelle la quadruple actualité culturelle le concernant. Donc, il y a eu la réédition avant l'été au Cherche Midi de La Jument du Capitaine, donc recueil de ses formules et de ses textes les plus percutants. Là, Grasset réédite à la fois son théâtre et ses mémoires, donc exobiographie. Et puis, du 9 septembre au 19 novembre 2010, le théâtre Ranelagh à Paris organise un festival en son honneur, donc théâtre, impromptu, poèmes, chansons, lectures, lui-même étant en scène un lundi sur deux. Alors, tous nos voeux, René de Obaldia, pour ce festival, et que son succès débouche sur d'autres événements, mettant en valeur votre œuvre, mais aussi votre manière d'être et votre démarche. Merci encore de la grâce avec laquelle vous maniez donc l'humour et la dérision pour apprivoiser nos angoisses. Alors, avant de nous quitter, je vais faire une chose que je ne fais jamais.
Ah oui, je vais
lire un portrait qui me semble particulièrement révélateur de votre démarche. Hein. Le fond est sombre, mais la manière est, comme le plus souvent chez vous, brillante et délibérément légère. Alors, c'est le portrait d'une femme qui s'appelle Eugénie. Vous vous souvenez de ce portrait ? Vous vous souvenez ? Eugénie, le portrait d'Eugénie.
Non.
Je vous le remets en mémoire.
Oui, oui.
Alors, je le dis mal, mais bon, c'est le texte qui compte. Hein. Eugénie, fort riche, 72 ans, son 7e lifting, ni rire ni larmes, les yeux trouent le masque de chair. Chair tendue, sous-tendue, retendue, surtendue, figée. Chair tirée à 4 épingles, lèvres gonflées, nez indubitable, oreilles fixes, le cou en ivoire massif et ce regard authentique, féroce, venu du fond des âges, féroce et pitoyable. Si après ça, il y a encore des femmes qui vont faire des liftings, je ne comprends plus rien à rien. René de Obadia, merci et merci à tous et à toutes d'être avec nous.